Bonjour, eh bien nous sommes vendredi et nous avons terminé notre étude sur l'Épître aux Hébreux et nous allons commencer une autre série qui s'appellera Maître et Disciple. Et c'est juste un titre, je vais développer tout cela évidemment avec l'aide du Saint-Esprit et de la parole de Dieu, la Bible qui ne contredit jamais le Saint-Esprit. On va faire une lecture, on va recommencer avec Hébreux. Hébreux chapitre 5 et verset 12. On peut commencer au verset 11. C'est Paul qui parle et qui dit « Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Jésus, je te prie de bénir ces paroles que je vais donner et qui vont bénir mes frères et sœurs qui sont à la recherche de cette perfection à laquelle tu nous appelles. Merci mon Dieu. Amen. Alors il est bien clair que Jésus est notre seul maître parfait. Mais Paul dit que nous devons devenir des maîtres. Il dit « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments de la parole de Dieu. » Donc, l'apôtre Paul savait que nous sommes appelés à devenir des maîtres. La question est, qu'est-ce qu'un maître ? Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, qu'on allait à l'école, on disait le maître d'école, la maîtresse d'école. On ne disait pas le prof, hein. On disait le maître. La question, c'est donc, qu'est-ce qu'un maître ? Eh bien, en 53 ans de marche avec Jésus-Christ, j'en ai rencontré des gens. J'ai rencontré beaucoup de chrétiens. Croyez-moi, j'ai visité 70 pays et même plus, je crois. Et dans tous les pays, j'ai été dans des églises et j'ai rencontré beaucoup de chrétiens. Par contre, j'ai rencontré quelques disciples. Et puis, j'ai rencontré peu de maîtres. Il y a trois degrés. Il y a trois niveaux spirituels qui existent. Les Hébreux à qui Paul écrivait étaient restés des bébés spirituels, qui en étaient encore au lait. C'est ce que j'appelle les chrétiens. Ils sont sauvés, ils aiment Jésus, et ils s'efforcent de marcher correctement. Ils sont des chrétiens. Paul le leur reproche doucement mais fermement. Il faudrait quand même qu'ils progressent un peu. Alors je vais aller droit au but et je ne compte pas faire une trop longue série au sujet de maître et disciple. Mais donc je vais droit au but. Imaginez-vous que vous êtes un papa, que vous êtes une maman, que vous avez un fils ou une fille tout à fait normalement constitué, mais à qui vous devez quand même chaque jour rappeler comment il faut faire pour se brosser les dents. Il y a un petit problème là. Une personne de 30 ans devrait être dans la position de quelqu'un qui apprend à des petits comment se brosser les dents, n'est-ce pas? Et quand je vois les chrétiens, quand je vois qu'on doit encore leur enseigner des choses de base, de savoir pardonner, de croire toutes les paroles qu'on trouve dans la Bible, toutes les paroles de Dieu, être certain que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein, les rudiments quoi. Eh bien, je suis toujours effaré. Alors que faire? Premièrement, je vous exhorte à retenir une fois pour toutes les enseignements essentiels et basiques de Jésus. Et deuxièmement, je vous exhorte à les pratiquer, à les exercer jour après jour. Et vous allez grandir. À partir de là, vous pourrez envisager de passer de chrétien à disciple. Un disciple, c'est une personne disciplinée, qui est en fait un exemple solide pour les chrétiens basiques. Un disciple ne va pas murmurer tout le temps, il sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, bon, ça ne veut pas dire qu'il se plaint jamais, mais il n'est pas tout le temps dans le défaitisme, il est participant volontaire aux souffrances de Christ. Un disciple n'est pas un dégustateur de messages. Combien de messages avez-vous ingurgité dans votre vie chrétienne? Combien de prédications, de messages, de prophéties avez-vous ingurgité dans votre vie chrétienne? Et combien de fois vous êtes-vous dégonflé quand l'épreuve arrivait? Vous voyez, les chrétiens, ceux que j'appelle les chrétiens, sont des gens sauvés. Il n'y a pas de problème. Et ils brilleront dans l'éternité, s'ils restent comme ça, comme les étoiles. Je vais vous lire un passage dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 41 et 42. Voilà ce qu'il est dit. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre est l'éclat des étoiles. Vous voyez, il y a trois. L'éclat du soleil, l'éclat de la lune, l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Les corps sont semés corruptibles, ils ressuscitent incorruptibles. Vous voyez, vous allez ressusciter, mais brillant comme des étoiles, ou comme la lune, ou comme le soleil. Ça, c'est sous-entendu, mais c'est quand même bien écrit. Il y a des niveaux. Et voilà pourquoi nous avons des problèmes pour nous aider à vaincre et à grandir. Les disciples brilleront comme la lune. Ils reflètent la lumière du soleil, du grand soleil de justice de Jésus. Les maîtres, eux, brilleront comme leur maître, comme Jésus. Et seront en compagnie de Jésus dans le pouvoir exécutif, décisionnaire, dans l'éternité. Parce que sur terre, déjà, ils auront fait les progrès nécessaires. Donc, on commence par être un chrétien, on est né de nouveau, on vient à Jésus, on se convertit, on est baptisé par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ, on évolue, et en fait on doit évoluer, parce que si on reste là, misère. On reçoit le baptême dans le Saint-Esprit, on manifeste des dons spirituels, on manifeste de plus en plus le fruit de l'Esprit, comme je vous disais l'autre jour. Tout ça, c'est si on veut être heureux, parce que vous en avez qui ne veulent pas être heureux, on dirait. Hein? Heureux, ça veut dire en marche. Le mot heureux dans la Bible, c'est achéri, ce qui signifie en marche sur une voie de rectitude. Si vous voulez être heureux, vous devez évoluer. Si vous voulez progresser, eh bien, aller de l'avant, eh bien, c'est le seul moyen. Si on veut être parfait, comme Jésus dit, hein, dans Matthieu 19, 21, il dit, si tu veux être parfait, c'est pas une obligation, hein, mais si tu veux être parfait, Matthieu 19, 21, ou alors Luc 14, 33, si tu veux être disciple, voilà ce qu'il faut faire, Luc 14, 33, vous irez lire, ou alors Matthieu 28, 19, qui dit, Jésus qui dit, allez faire des disciples, il dit pas allez faire des chrétiens, allez faire des disciples, des gens qui se disciplinent en vue de grandir encore. Alors nous sommes en marche, heureux, quand on prend les messages de Dieu au sérieux et qu'on les met en pratique. Vous allez me dire, mais Michel, tu nous apprends rien. Je sais, vous l'avez déjà entendu 1000 fois. Et on est en marche vers quoi? Eh bien, vers la perfection, rien que ça. Il faut le dire, vous ne trouverez personne qui devienne parfait sur cette terre. Il n'y a que Jésus qui ait été parfait sur cette terre. Que vous le montriez ou que vous le cachiez, vous avez tous au moins une faiblesse. Mais les plus grands maîtres bibliques ont et avaient et ont toujours des faiblesses. Ça peut être la peur, ça peut être l'orgueil, ça peut être l'avarice, ça peut être la sensualité, ça peut être toutes sortes de choses. Mais la supériorité d'un maître, elle vient d'abord du fait qu'il est conscient de sa faiblesse et qu'il emploie tous les moyens pour en triompher. Par contre, les chrétiens traînent pendant toute leur vie leurs défauts et très souvent, ils ne sont même pas conscients qu'ils ont ces défauts-là. Et quand vous leur dites, genre, non, non, frère, non. Jésus, lui, il a dû s'instruire. Il a dû croître en stature, en sagesse, en grâce. Luc 2,52. Et enfin, à sa 30e année, il a pu faire les merveilles qu'on connaît. J'ai eu le privilège de connaître des maîtres humains sur cette terre. Raphaël, c'était un maître, un exemple. Osborne, c'était merveilleux. David Wilkerson était un homme, c'était un meneur d'hommes, c'était un maître, c'était quelqu'un qui avait un caractère terrible et qui savait ce qu'il voulait. Mais par quelle souffrance il a passé, ce David Wilkerson. Si vous connaissez son histoire, c'est terrible. Vikram Seth, c'était un maître extraordinaire. Un Anglais magnifique, humble, gentil, mais fort, puissant, intelligent, merveilleux. Mais ils n'ont pas toujours été comme ça, ces hommes. Ils n'ont pas toujours été à ce niveau-là. Il a fallu qu'ils grandissent. Et ils ont beaucoup travaillé sur eux-mêmes d'abord, avant de devenir ce que nous voyons maintenant, parce que maintenant on voit ce qu'ils ont fait. Et on dit, mais oh là là. Vous voyez, notre mission sur Terre est de réaliser ce travail de perfectionnement. Avant tout, c'est ça. C'est pourquoi nous ne devons pas nous imaginer que l'existence peut être facile. C'est exprès si c'est difficile, mais c'est difficile à votre niveau, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune épreuve, aucune tentation qui va survenir, qui dépasse vos forces. Mais vous vous imaginez toujours que c'est terrible votre situation, mais si vous étiez dans la peau d'un maître, vous verriez que votre problème c'est vraiment rikiki. Les maîtres ont des problèmes bien plus importants que les simples chrétiens. Pour ce qui concerne ceux qui ont atteint cette maîtrise, qui sont passés du stade de chrétien au stade de disciple et sont ensuite devenus des maîtres, eh bien, ils rencontrent les plus grands obstacles. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils sont devenus capables d'avoir la volonté de vaincre et de vaincre et de rester victorieux, et même de rester plus que vainqueur. Beaucoup de chrétiens disent « je suis vainqueur et plus que vainqueur » et vous les voyez tout le temps dans la défaite. Ils vous parlent « Jésus est notre Dieu, le Dieu de l'abondance » et vous les voyez toujours tirer le diable par la queue, comme on dit, ils sont toujours fauchés. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ils disent des choses, mais c'est pas tout à fait ce qu'ils vivent. Mes frères et sœurs, c'est grâce aux difficultés qu'on devient plus fort. Oui, c'est grâce aux difficultés. J'entends ici certains chrétiens qui vont dire « Non, c'est grâce à Dieu. » Bien sûr, mais c'est Dieu qui permet que vous ayez des difficultés afin que vous grandissiez. Et c'est pourquoi un maître a le droit d'enseigner les autres et même de les secouer de temps en temps. Je connais des chrétiens qui étaient des disciples et qui ont rétrogradé. Ils sont toujours chrétiens, ils aiment toujours Jésus, mais ils ont rétrogradé. Alors, ils veulent enseigner. Ils veulent enseigner. Ils voudraient mieux qu'ils se taisent. Ils voudraient mieux qu'ils se taisent parce que les gens ne sont pas fous. Au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Ça prend plus ou moins de temps, mais les gens s'en rendent compte. Ils font le vide autour d'eux, ils se demandent pourquoi. Et des pièges leur sont tendus pour qu'ils tombent dedans. Alors, ils pensent au début que c'est le diable qui leur tend des pièges. Mais non, ce n'est pas le diable, c'est Dieu. C'est des anges qui leur tendent des pièges pour qu'ils tombent dedans, afin qu'ils apprennent l'humilité. Mais ça, c'est tout un travail. Hein. Sachez que seule la victoire sur vos faiblesses vous donne les vrais pouvoirs. Et ces pouvoirs sortiront de vous, même si vous voulez les cacher. Alors j'entends d'ici des chrétiens qui disent « Mais les pouvoirs nous viennent par le Saint-Esprit. » Oui, vous voyez comme vous êtes spirituel. Mais alors ils sont où vos pouvoirs? Hein? Les pouvoirs, ils viennent du fait que vous avez réussi à vaincre vos faiblesses. C'est ça. Dieu ne va pas vous donner des pouvoirs extraordinaires si vous n'avez même pas réussi à vaincre vos propres petites faiblesses personnelles. Alors, l'utilité de fréquenter un maître, c'est de pouvoir le regarder, l'écouter en vivant près de lui. On constate vite fait qu'un maître n'est pas parfait. Mais si on est intelligent, on écoute quand même. Et puis, on fait la part des choses. Martin Luther, le réformateur dans les années 1500, il avait des disciples. Bon, il avait des élèves, il enseignait, mais il avait des disciples qui vivaient chez lui. Vous saviez ça? Et quand ils étaient tous à table, il y avait toujours quelqu'un qui ne mangeait pas, mais qui écrivait tout ce que Luther disait. Et il y a un livre qui existe, que vous pouvez vous procurer, qui s'appelle « Les propos de table de Martin Luther ». C'est très intéressant, parce que vous allez voir qu'il était bourré de défauts, ce pauvre frère Luther. Mais quelle sagesse! Quel homme de Dieu! Il avait des défauts aussi, parce qu'il n'y a que Jésus qui n'en a pas. Luther s'occupait à leur donner, à ses disciples, des richesses que rien d'autre ne pouvait leur donner. Jésus, le grand maître, pousse les gens vers des maîtres humains pour les fortifier, pour fortifier les disciples et pour fortifier les chrétiens. Alors certains chrétiens vont me dire « Oui, mais Michel, tu oublies, Jésus a dit, ne vous faites pas appeler maître. » Mais je sais bien, c'est écrit dans Matthieu 23, 8. Mais lisez bien la phrase, « Ne vous faites pas appeler maître. » Il a raison, Jésus. Un homme qui cherche à se faire appeler maître n'est pas un maître. Tous ces rigolos qui se font appeler maître ou que sais-je, vous savez, ils ont des titres maintenant, on se demande où ils vont les chercher. Ils aiment beaucoup ça, n'est-ce pas, les titres. Un vrai maître n'a pas besoin de ces titres. Il ne demande pas aux gens « Appelez-moi maître ». Pas du tout. Par contre, les gens se rendent compte par eux-mêmes si une personne est un maître ou non. Voilà, ça c'était le premier cours. On revient sur ce sujet vendredi prochain si ça vous intéresse. Écrivez-moi un petit mot et ça m'encouragera à continuer. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Amen. Au revoir.